France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Poète, écrivain et graphiste adepte du collage, souvent qualifié de touche-à-tout, Georges Hunier n'est sans doute pas le plus célèbre membre du groupe des surréalistes, alors qu'il fut pourtant parmi les plus jeunes à être embarqué par les avant-gardes artistiques de l'entre-deux-guerres. Plus tard, pendant l'occupation, il sera du groupe La Main à la Plume et participera à la naissance de ce qui deviendra les éditions de Minuit. En 1965, invité de l'émission estivale de France Culture « Impromptu de vacances », Georges Hunier disait tout le mal qu'il pensait des vacanciers et des psychanalystes, sans rien dire cependant des psychanalystes en vacances. À part cela, il se souvenait de Max Jacob, de Cocteau, de Crevel, de Henri Cliquet-Payel et de Picasso, et parlait abondamment de l'érotisme, indissociable pour lui de la poésie, et qui occupait toutes ses pensées.
France Culture présente Impromptu de vacances, une émission de Harold Portnoy. Ce soir, entretien avec Georges Hunier. Assistant Jean-Marc Siafarikas.
Georges Hunier, que pensez-vous des vacanciers ?
Oh, j'en pense le plus grand mal. Il y en a de plusieurs sortes. Il y a le vacancier propre, mais qui n'en est pas moins insupportable. Et puis, il y a les cons à transistor. Alors ça, c'est beaucoup plus grave. Et puis, alors, il y a les campeurs. Je ne peux pas m'opposer au camping, parce que ça... On ne peut pas priver les gens de vacances, on ne peut pas les priver d'aller au bord de la mer. Seulement, le fameux bois de trouche-chemise, tellement chanté par Aznavour, ben, il serait bien désolé de le voir dans l'état où il est maintenant.
Pensez-vous qu'il existe une mentalité de vacancier ?
Oui, mais c'est justement cette mentalité qui ne m'intéresse pas. Parce que je n'ai... Ce qu'ils appellent, eux, détente, pour moi, c'est l'inaction. Et je ne déteste rien tant que l'inaction. Je suis un être passionné et imaginatif. Et le fait de me rôtir au soleil comme un légumineux, comme ça pendant des heures, mais ça me met hors de moi. Je ne comprends pas qu'on puisse faire ça. Et voilà pourquoi le mot vacancier, qui d'ailleurs me déplaît souverainement, aussi bien du point de vue vocabulaire que du point de vue signification, non, je n'aime pas les vacanciers.
On peut penser que ce besoin de détente est nécessaire pour certaines personnes, non ? Qui ont travaillé toute l'année.
Oui, c'est aussi pourquoi on ne peut pas émettre à ce sujet un avis absolument formel. Mais moi, par exemple, je suis ravi d'avoir une maison à la campagne avec des murs qui me séparent de tous ces gens-là. Ce qui fait que je ne sors pas de chez moi, je reste dans ma maison.
Où se trouve votre maison ?
À Saint-Martin-de-Ré, exactement. En bordure de la ville, mais dans la ville. Je borde les fossés de Vauban. J'ai donc une vue imprenable sur la mer. Et je vis là-dedans. J'ai rangé une petite maison dans laquelle je travaille.
Comment s'appelle-t-elle ?
Elle s'appelle l'herbière.
Pourquoi ?
L'herbière parce que... J'ai essayé d'en faire une personne, car si vous cherchez dans le dictionnaire au mot herbière, vous trouverez la définition suivante. C'est une femme qui arrache l'herbe, et ça s'appelle l'herbière à cause de cela. C'est un mot que ma femme a trouvé, ça nous a plu, et nous aimons beaucoup cette petite propriété.
Vous avez un parc, je crois.
Oui, un parc, il faut connaître l'endroit pour comprendre. Avoir 4000 mètres carrés dans l'île de Ré, c'est être un gros propriétaire. Enfin, je suis le prince Youssoupov là-bas. Mais si j'avais ça dans l'île de France, ce ne serait rien du tout. Les propriétaires, ils ont des hectares. Mais moi, j'ai 4000 mètres carrés et c'est constitué uniquement de vergers et de petits bois, de bocteaux. Tout ça, c'est plein d'oiseaux. Et en effet, Ça s'appelle un parc. On ne peut pas appeler ça un jardin. C'est pas un jardin. C'est pas peu plus qu'un verger. Mais nous avons, ma femme et moi, laissé tout ça à l'état un peu sauvage. Et tous les cerisiers, tous les poiriers, tous les arbres fruitiers, pommiers, là, tout ça, ça pousse en pleine herbe avec des herbes folles et des avoines folles, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et ça nous plaît tel quel.
L'herbière évoque surtout l'aube grise qui brise les scellés de la nuit. La musique du silence sous une lumière rose. J'y rêve, j'y voyage en compagnie de mes fantômes. La jeune fille du figuier me tend une main miniature que je prends humblement pour lui dire bonjour. Au départ, rien ne ressemble autant à une bonne herbe qu'une mauvaise. Tout brin d'herbe est une aventure. Sous les feuilles basses, au trou des racines et des vieux murs, il y a chambre à coucher, salon, salle à manger, cuisine. La vie et l'amour, la haine et la mort. Chaque pas assassine, et le visible tue l'invisible. Ce qui est nu et ce qui est cuirassé, la faiblesse infinie et la force invulnérable, aspect. La fleur du tabac, la forme d'un fume cigarette, et sa graine, l'apparence du tabac prisé. Dans le vent, le laurier se plaint, il grince. Qui le tourmente? La gloire dont il est le symbole, ou le ragoût dont il est le rehaut. Écorce contre écorce, un cerisier et un prunier. S'enlaçant à leur tronc, deux variétés de lierre aussi drues l'une que l'autre, et une vigne dont la force du sceptre trahit l'ancienneté, cohabitent inextricablement. Les fleurs puis les fruits, chacun à son heure, jaillissent de leurs branches, si mêlées qu'elles ne forment qu'un bloc de verdure.
La maison de la rue de la Gaîté, dans laquelle nous enregistrons à l'heure actuelle.
Oh, elle m'a coûté bien des tracas. Et malade comme je suis, j'aurais pu y laisser ma peau. J'ai été mis à la porte de mon ancien domicile, que j'habitais depuis 22 ans, parce que le propriétaire avait vendu l'immeuble pour en faire un gratte-ciel. Et j'ai dû trouver quelque chose. Et la chance nous a servi, ma femme et moi, nous avons trouvé ça.
C'est assez curieux parce que cette maison est située rue de la Gaîté. Or, rue de la Gaîté, c'est une rue assez bruyante. On passe un petit porche, on entre dans un couloir, on débouche sur une cour, et là, c'est le calme. Et votre petit pavillon se distingue par le fait que devant, il y a des arbustes.
Oui, mais d'ailleurs, mes voisins, ce sont des gens qui n'aiment que les fleurs artificielles. Ils détestent les animaux et j'ai des chats. Alors, je ne suis pas toujours très bien vu dans cette cour.
Vous avez des chats. Comment s'appellent vos chats?
Il y a l'aîné qui a un an plus que mon fils. Il a 15 ans, il s'appelle Biquet. Le suivant s'appelle Napoléon. Il est angora. Et bien qu'ils soient tous de la même famille, le troisième, c'est Rididi, et il est tigré, celui-là. On ne sait pas du tout pourquoi, mais c'est comme ça.
D'où viennent ces noms?
On ne sait pas, c'est venu comme ça. Rididi, parce que quand il est né tigré d'une mère noire, on l'a trouvé ridicule, alors on a dit ridicule et ça a fait Rididi.
Et Napoléon ?
À Napoléon, on ne sait pas. Alors le chat que nous aimions le mieux, enfin que nous aimions le mieux, non, que nous aimions beaucoup et qui est mort, c'est Henri IV. Et Henri IV, parce qu'il avait bon, le bout de la queue blanche, et qu'on supposait qu'à cet égard, ça pouvait rappeler le panache d'Henri IV.
Évoquons vos souvenirs d'enfance, à propos des vacances, bien sûr.
Eh bien, les vacances, dans le sens où vous l'entendez, cela veut dire naturellement la belle saison. Les vacances, quand j'étais jeune, pour moi, duraient très longtemps. Aujourd'hui, on m'envie peut-être de passer 3 mois de vacances, mais je vous l'ai dit, ce ne sont pas des vacances. Je peux vivre aussi bien, moi, à Saint-Martin-de-Ré qu'à Paris, ça ne changera rien, ma vie est la même. Et comme je n'ai pas de bureau, comme je n'ai pas d'emploi, comme je ne suis pas un salarié, mais un franc-tireur, moi je peux vivre où je veux, ça n'a aucune importance. Mais les vacances, donc, quand j'étais enfant, duraient très longtemps. Parce que mon père, marié déjà depuis suffisamment longtemps pour que sa femme l'intéresse moins, tenait essentiellement à ce que les grandes vacances commencent à Pâques. Alors on me retirait du collège, et j'emmenais ma mère à Saint-Malo, où nous avions une maison. Et tout, mon père faisait ça un petit peu pour se débarrasser de sa femme. Et puis moi, ça m'arrangeait. Alors j'allais au collège de Saint-Malo prendre des leçons particulières. J'avais un précepteur. Alors les vacances, quand j'étais plus petit, c'était 5 et Portrieux, par exemple. Mais les vacances, pour moi, ont toujours plus ou moins des noms, surtout des noms de femmes. Et même petit, j'étais très amoureux des petites filles. C'est à Saint-Quay-Portrieux que j'ai aimé une personne, que je me rappelle chaque fois que je relis un certain poème d'Henri Bataille, dans lequel il y a ce vers que je trouve très beau, « Rosine, ma Rosine, à Rosine, Rosine ». Un souvenir d'enfance, par exemple, qui restait dans ma tête. J'étais fort jeune, je ne devais même pas avoir 10 ans. C'était au Sable d'Olonne, où nous, exceptionnellement, nous avions passé un été. Et un jour comme tous les autres, il faisait beau, tous les enfants jouaient sur la plage, les ânes se promenaient, transportant sur leur dos des enfants, comme aux Champs-Élysées. Quand tout d'un coup, le ciel s'est assombri, la mer s'est mise à monter précipitamment, elle est arrivée en quelques minutes jusqu'à la digue, et là, elle a emporté vers le large, sous un ciel noir, tout ce qui était sur la plage. Pour les gens, quand même, non. Les grands-mères ont eu encore le temps de quitter leurs pliants avant qu'ils soient emmenés par le raz-de-marée. Mais le raz-de-marée a emmené tout. Les établissements de bain, les cabines, tout ça est parti vers le large. Et c'est une image qui m'est restée parce que ces éléments déchaînés, ces hommes qui essayaient de retenir des cabines de bain parce que c'était leur fortune, c'était leur métier, c'était leur commerce, c'était tout pour eux, ça m'est resté gravé dans la tête. Comme certaines descriptions de tempête de Victor Hugo.
Attention, attention à l'île Tivir. Une queue de murène lui sert de gouvernail. L'île volante qui rase la vague la franchit d'un saut, plonge dans la mer et reprend son vol. que les ruisseaux se taisent quand l'homme s'endort. Le chat continue à aimer les oiseaux sous les tilleuls et le sommeil dans les buissons. Le chien court sur le pont, le porc est au bout d'une chaîne. Nous ne pouvons rien modifier aux chaînes de la vie. Ces gestes, je les avais préparés au milieu du bateau comme autant de voyages, comme autant de bagages. L'île Petite Fumée ne laisse aucune trace, ni sur l'eau, ni dans le ciel. Elle navigue de conserve avec l'île pure dont la pudeur frissonne dans la brise. Vous ne connaissez rien à l'adolescence des îles. Vous saluent-elles? Elles ont la politesse des roses. Les roses vont bien ce soir. Et nous n'avons pas besoin, hommes récemment débarqués, de vos paroles, de vos chants, couleur de terre ferme.
Et puis, il y a aussi les vacances que j'ai passées avec des amis, surtout quand j'ai commencé, quand j'étais très précoce, à être poète. Et alors là, c'est très mélangé, n'est-ce pas? Parce que j'ai des souvenirs, quand j'avais 17, 18 ans, 19 ans, de Jean Cocteau, de Georges Auric, de René Crevel, de Christian Bérard, à l'hôtel Welcome, à Villefranche-sur-Mer. À Villefranche, le Welcome Hotel était un endroit qui avait une grande personnalité, si l'on peut dire, dans la mesure où c'était pas un hôtel comme tout le monde. C'était un amas de gens célèbres, d'excentriques, de drogués d'ailleurs, en grande partie, d'opiumane en tout cas. Et puis, j'ai le souvenir d'avoir passé un été, moi, à Saint-Malo et Picasso à Dinard, mais nous nous voyons pratiquement tous les jours, ou presque.
Avez-vous des souvenirs qui concernent Pablo Picasso?
C'était pendant l'occupation allemande. Et on se tenait vraiment par les coudes, quoi. N'est-ce pas? Et où la fraternité était absolument entière. Ce qui fait de cette époque horrible une époque presque que l'on pourrait regretter. Parce que les mœurs littéraires, les mœurs picturales, tout ça, ça n'existait plus. On était tous contraints au silence. Oh, rassurez-vous, pas un silence très long, parce qu'on peut faire confiance aux écrivains, et ils s'arrêtent, mais pas pendant longtemps, hein. Il n'aurait pas fallu que l'occupation allemande dure bien longtemps pour qu'il y ait des écrivains qui se mettent à écrire, mais pas du tout de la résistance, mais tout simplement, ils auraient écrit parce qu'ils avaient envie d'écrire, puis c'est tout. Mais quant à Picasso, son cas était différent, parce qu'il ne pouvait pas exposer à une exposition organisée par des peintres espagnols, on les a forcés à enlever un Picasso non seulement du mur, mais même de réimprimer leur catalogue parce qu'ils l'avaient mis sur la couverture. Et naturellement, Picasso était un être parfaitement libre, visible, et je le voyais presque tous les jours. Et c'était une sorte de vacances pour moi de rencontrer Picasso. Et par exemple, une chose qui me frappait chez lui, c'était d'abord son comportement.
C'est-à-dire?
Son comportement de tout genre, même vestimentaire. L'été, quand il avait chaud, il vous recevait en caleçon, mais pas en slip, en caleçon. Et son atelier était vraiment un endroit unique à Paris. Et puis, naturellement, comme il ne pouvait pas l'éviter, parce que c'était inévitable, naturellement, on ne fréquentait pas les Allemands. Mais si un Allemand frappait à votre porte et qu'on l'ouvrait, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Alors, un jour, je suis arrivé là, et il y avait un officier allemand qui était là, et qui visitait d'ailleurs fort respectueusement et fort admirativement l'atelier de Picasso. Et quand il est arrivé devant le grand tableau qui s'appelle Guernica, qui était là, dans son immense atelier, il a dit, et ça, c'est de vous? Et Picasso l'a regardé, lui, non, c'est de vous.
Vous avez bien connu, je crois, Cliquet Pleyel.
Oh, très, très très bien. C'est par mon ami Théophile Briand que je l'ai connu. J'avais à peine 20 ans. C'était un jour où Théophile Briand m'avait invité à déjeuner, qu'il m'a dit, tiens, je vais vous emmener chez des amis à moi qui habitent Neuilly. Nous sommes montés dans sa voiture, et comme c'était un personnage excessivement distrait, très, très, très détaché des choses de la terre. Quand nous sommes arrivés rue Perronnet à Neuilly, sa voiture s'est mise à fumer. À fumer parce qu'il avait oublié de mettre de l'eau dans le radiateur. Et que nous sommes arrivés chez ce musicien moderne, car à cette époque-là, il était un des meilleurs représentants de ce qu'on appelait l'école d'Arcueil. Et nous sommes arrivés donc chez ce musicien moderne dans une machine qui ressemblait exactement à un dragon des Valkyries. Ça fumait de partout, c'était absolument épouvantable. Mais de cette première visite est née une amitié qui a été fructueuse et qui a créé beaucoup d'œuvres, car je lui ai fait connaître moi Mac Jacob, avec lequel il a fait une opérette dont la musique se trouve je ne sais pas où, j'espère qu'elle n'est pas perdue. Et quant à moi, il a mis en musique de nombreux poèmes de moi, parmi les tout premiers. Il a connu très bien l'Herbière, il y est venu passer plusieurs mois l'été. C'était un être absolument charmant. Il ne sortait jamais à cet égard. nous ressemblions beaucoup. Mais qu'il est, moi je suis toujours vêtu, et lui était toujours nu. Mais ça lui était absolument indifférent, et il fumait. Le seul défaut qu'il avait, c'est que la nuit, il toussait. Il toussait épouvantablement. Mais le pauvre être, hélas, j'aimerais mieux qu'il tousse encore, plutôt que de mourir comme il est mort.
Nous entendons un extrait de Commode, un opéra radiophonique que Cliquet Pleyel composa avec Georges Hunier. Thank you.
Parlez-nous de Mac Jacob.
Naturellement, entre Mac Jacob et moi, il y avait un abîme. Cet abîme, il essayait de le combler, difficilement d'ailleurs, parce que j'étais très amoureux à cette époque-là d'une fille qui vendait des chaussures rue Tronchet. Et il m'a dit, mais moi aussi, quand j'étais jeune, j'étais amoureux d'une fille qui vendait des chaussures. Aucun rapport, mais enfin, lui, il envoyait. Enfin, un jour, je suis allé lui rendre visite à Saint-Benoît-sur-Loire, ceci devait être en 1924, et là, j'ai couché dans une chambre qui tenait au presbytère, et non pas au monastère, comme on l'avait pompeusement baptisé, ça faisait mieux dans le tableau, mais en réalité, c'était un presbytère. Bon. Et alors, j'avais une chambre, et j'éteins ma lumière, et le brave petit jeune homme que j'étais commence à s'endormir, quand tout d'un coup j'entends, mais venant de la chambre, je me demandais d'où ça pouvait venir, « Georges, Georges, tu dors ?» Naturellement, je ne répondais pas. Mais sur le mur d'en face, un peu comme une projection de lanterne magique, j'ai vu un rond lumineux devant lequel bougeait quelque chose. Eh bien, c'était le rond par lequel passait en hiver le tuyau de poêle qui servait à chauffer la chambre, et Max, sur un amas de chaises invraisemblable, je me demande comment il ne s'est pas cassé la figure, c'est ça, m'appelait par ce trou dans le mur. Et alors, je n'ai pas répondu, ça s'est borné à ça. Il suppose qu'il a dû redescendre de ses chaises, comme un acrobate qui, par un certain côté, il était, mais intellectuellement parlant.
Nous parlions de l'érotisme, parce que c'est un terme, d'une part, qui est assez galvaudé, je crois, et je pense que c'est votre avis. Et puis, je pense également que cela compte beaucoup pour vous, d'une certaine façon, que j'aimerais bien que vous nous précisiez.
Oui, l'érotisme coule dans mes veines, au même rythme que mon sang. À vrai dire, je n'aime même que cela. J'ai des opinions sur cette question, que j'exprime dans ce que j'écris, que j'exprime surtout aussi dans mes collages.
Par exemple ?
C'est l'érotisme inconscient des journaux que l'on a soit quotidiennement, soit hebdomadairement sous les yeux. Par exemple, je suis en train d'écrire un texte que j'ai appelé « De l'image ». C'est une sorte de petit traité, mais qui n'a rien à voir avec la critique d'art et la critique picturale. Ça concerne bien sûr les collages. Mais comme en ce moment, tout le monde fait des collages, et qu'il suffit d'avoir fait un collage l'année dernière pour être classé parmi les auteurs de collages, etc., alors que moi, ça fait 35 ans que j'en fais, je me suis permis d'écrire ce livre, mais c'est plus des considérations sur la liberté d'expression, de l'érotisme, et surtout sur l'art de porter à la surréalité, si l'on peut dire, pour employer un mot qui lui aussi est galvaulé, le quotidien, l'habituel, ce qu'on ne voit pas. Alors que on peut très bien lire des hebdomadaires dans lesquels on peut lire ce qui n'y est pas écrit et on peut voir ce qui n'y est pas représenté. Tout ça, des ciseaux, un pot de colle, ça suffit.
Je souhaiterais que l'on revienne sur ces images de publicité. Pouvez-vous nous donner un exemple de travail que vous avez fait ?
Par exemple, même sans faire de collage, vous pouvez très bien donner un autre sens aux images les plus stupides que vous pourrez rencontrer dans les journaux, les plus stupides également. Par exemple, récemment, j'ai trouvé une publicité en grand format. Ceci représente une ravissante personne, accroupie, dont on voit des jambes qui sont ravissantes, ses longs cheveux tombent sur ses genoux, et il y a en haut, en gros caractère, satisfaite. Mais naturellement, elle est satisfaite parce qu'elle porte des bas, je ne sais pourquoi, ça je m'en fous. Mais alors, enlever satisfaite de porter des bas, etc., vous obtenez la ravissante personne dans cette position très louche, on se demande vraiment ce qu'elle vient de faire, et alors simplement, elle est satisfaite. Et voilà, on se demande de quoi, à partir de ce moment-là. Voilà où déjà, j'indique le sens qu'on peut accorder aux images complètement stupides qu'on voit tous les jours. Alors naturellement, avec des ciseaux, avec de la colle, hein, alors vous pouvez faire des collages merveilleux avec un frigidaire et un porte-jartel. Mais dans ce traité, j'insiste sur le fait que les collages doivent être bien faits.
C'est-à-dire ?
Bien découpés. Techniquement, bien fait. On pourrait presque dire que le découpage de celui qui crée l'image qu'il aime est presque l'expression d'un amoureux qui dévait, par exemple, la femme qu'il aime, n'est-ce pas ? Et que, je vous assure que, de temps en temps, mon ciseau tremble quand je découpe parfois quelque chose.
Et notre amour, t'en souviens-tu ? Ne cours pas trop après la chance. Le cœur y perd son élégance. Il meurt où tout écho s'est-tu. S'éveillent-ils tes souvenirs ? Autant vaudrait mon hirondelle chercher la trace de ton aile au ciel, vacant de tes loisirs. Farfadés à sensation, vos insaisissables chimères ne sont que langueurs éphémères, ivres de fausses passions. Dites en clair de votre voix le code secret de vos trilles. Est-ce ainsi qu'il en va des filles, s'offrant pour la dernière fois ? Dans un déshabillé bleu ciel, ce n'est que votre main, madame, qui ce soir-là m'ouvrit la trame d'amour dont j'ai pillé le miel. Sans lendemain et sans aveu, ce souvenir parmi tant d'autres subsiste-t-il parmi les vôtres ? Je t'appelais mon oiseau bleu.
J'ai peut-être tort, Georges Huniet, mais j'ai l'impression que, pour vous, l'érotisme, c'est une forme de révolte.
Oui, parce que c'est contre la pruderie de mon temps que je m'insurge. Parce que toutes ces choses que je dis, moi, ouvertement, et qui me font mal juger, tous les gens qui me le reprochent, ils y pensent encore beaucoup plus que moi. Seulement, ils ne le disent pas. Voilà la différence. Et ce qu'on avoue est beaucoup moins grave que ce qu'on garde sur le cœur.
C'est une ouverture sur la poésie aussi.
Pour moi, il n'y a pas de poésie sans érotisme. C'est simple. Je ne la conçois pas autrement qu'érotique. Érotique dans un sens très large, et dans le sens de l'amour. Parce que l'érotisme, pour moi, n'a rien à voir avec le vice. Pour moi, le vice naît avec vous, et il n'y a rien de plus vicieux que des jeunes enfants et que l'amour véritable. Est-ce que c'est cela le vice ? Non. L'amour excuse toutes les aberrations. Ce qui est horrible, c'est le lord anglais qui, pour son petit déjeuner, ne peut admettre avec son thé que des toasts tartinés de caca, par exemple. Alors là, ça, c'est autre chose. C'est plus de l'érotisme, c'est autre chose, c'est de la maladie.
On va tomber dans la psychanalyse, là.
Oui, mais comme ce n'est pas un moyen de guérison, moi, je ne comprends la psychanalyse que comme un jeu littéraire, c'est ce qu'en ont fait les surréalistes. Mais à partir du moment où on le prend comme un moyen de guérison, c'est d'une absurdité totale. J'ai eu des troubles nerveux. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour les guérir. Les uns m'ont dit que ça venait du foie, parce que c'est des médecins de médecine générale. D'autres ont essayé de me faire de l'électrochoc, alors ça, j'ai pas marché, parce que j'aimais mieux souffrir de ce que j'avais plutôt que de souffrir de ce qu'ils risquaient de me donner supplémentairement. Et quant à la psychanalyse, j'ai eu affaire à un psychanalyste que je ne vous nommerai pas par charité, parce que c'est un de mes amis. C'était pas tolérable. Au bout de la deuxième séance, je l'ai vu venir. C'est pour lui qui me psychanalysait, c'était plutôt moi. Je lui ai dit, je vous vois venir avec vos gros sabots, vous allez me demander si je rêve de bretelles, etc. Et vous allez me déclarer que j'étais amoureux de mon père. Et bon, pas du tout. Simplement, si je n'aimais pas beaucoup ma mère, c'est parce que je ne la trouvais pas très intelligente et qu'elle n'avait pas le don de m'intéresser. Alors que mon père était un personnage curieux et qui était aimable. Aimable dans le sens étymologique, c'est-à-dire digne d'être aimé. Il n'y a pas de question de bretelles là-dedans. Et pas question que je sois amoureux de mon père. Aussi, je me suis levé et puis je suis parti en claquant la porte.
Georges Huniet, je crois que vous aimez les cartes postales.
Oui, j'aime tellement les cartes postales, et depuis si longtemps, qu'à la longue, j'ai fini par en avoir des milliers et des milliers. Mais j'aime autant vous dire tout de suite que ma collection de cartes postales, que d'ailleurs je ne poursuis plus de nombreuses années parce que j'ai plus le temps, ne concerne que les femmes. La femme, plutôt, serait plus juste que les femmes. Et qu'elle soit photographique, qu'elle soit dessinée, qu'elle soit réaliste ou qu'elle soit un peu stylisée, toutes mes cartes postales qui remontent naturellement à l'époque 1900 qui est célèbre, jusqu'à notre époque, ne représentent que des femmes. Je n'ai pas une seule carte postale qui représente par exemple la gare de l'Est ou l'hôtel de ville de Sens. Contrairement à ce que les gens s'imaginent, je ne suis pas un collectionneur. Je suis un type qui garde ce qu'il a trouvé et ce qu'il aime. Mes cartes postales, je ne peux pas dire que j'aime les femmes qui sont dessus. Il y en a qui me plaisent infiniment, et puis d'autres qui me plaisent un peu moins. Mais cela constitue tout un ensemble qui me paraît intéressant. Je suppose qu'un jour, quelqu'un fera appel à ma collection de cartes postales, car je vois des livres sur la question qui me paraissent littéralement ridicules, étant donné que j'en ai tellement plus que tout ce qu'on peut représenter. Je suis un type décourageant. Les gens me disent, j'ai 800 cartes postales. Moi, je peux répondre, j'en ai 15 000. J'écrase les gens. C'est le bulldozer.
Et votre collection de bateaux?
Oh, vous savez, je proteste toujours contre
le
terme de collectionneur. Parce que, à mes yeux, le collectionneur est un maniaque. Il y a des collectionneurs de boutons militaires, il y a des collectionneurs de n'importe quoi. Moi, je ne collectionne pas une chose. Je garde, je conserve ce que je trouve que j'aime. Et alors, j'ai des bateaux, je peux aussi avoir des poupées, j'ai des poupées. J'adore les poupées. J'ai des livres, j'ai une maison que vous avez visitée, qui est pleine d'objets. Ma maison de vacances, l'Herbière, c'est pareil, c'est plein d'objets. Alors les bateaux ne font partie, en somme, que d'une sorte de décor, si l'on peut dire, mais de décor que j'aime, de décor dans lequel je rêve. Et ma collection de bateaux date de mon enfance, parce que les premiers bateaux que j'ai eus, ceux qui sont en vitrine et que les collectionneurs, alors les spécialistes appellent des demi-coques, c'est très connu. C'est-à-dire que c'est un bateau qui est coupé en deux et qui est collé sur un fond avec un petit décor. Eh bien, j'avais ça dans ma chambre d'enfant quand j'avais 12 ans. Aujourd'hui, je ne suis pas un collectionneur de bateaux, mais le cas échéant, si je trouve un bateau qui me plaît et que j'ai les moyens de me le payer, je l'acquiers parce que ça me plaît.
Vous avez écrit dans un ouvrage qui s'intitule 1961, au fur et à mesure de l'âge, le dégoût se forme. Que voulez-vous dire ?
Il me semble que cela se passe de commentaires.
Et pourtant ?
Eh bien, les gens pensent que le temps forme leur goût, alors que chez moi, il forme mon dégoût. Et si Apollinaire a écrit qu'il était là, de ce monde ancien, moi, je pourrais vous dire que je suis déjà là, de ce monde moderne.
L'insolite est devenue la monnaie courante de notre temps. Il se normalise. Plus, il se banalise. Le propre de l'insolite n'est-il pas de surgir là où on l'attend le moins ? Attention. Les postes et télégraphes propagent ce slogan « Aider les diminués physiques à travailler ». Toute notre époque est là, dépeinte. Encore notre époque. Un courtier en tableau qui a fort bien réussi et dont par décence je tairai le nom, imprime à l'usage de son commerce la carte de visite suivante. X, collecteur, SIC, d'art moderne, doctrine de capitalisation, j'achète au comptant, suivent les noms que je tairai aussi, mais cette fois par respect, par affection de quatre grands peintres contemporains. On ne discute pas des goûts et des couleurs. Toujours notre époque. Un collectionneur achète un tableau de valeur par téléphone. Son prix, ses dimensions, sa période et l'assurance de son authenticité lui suffisent. Il ne s'inquiète même pas de le voir. Au vendeur qui montre quelques surprises, il répond « Quand j'achète des Suez, est-ce que je demande à visiter le canal ?» Le chat, quand il est petit, se découvre dans un miroir et s'y regarde. Adulte, il refuse de s'y contempler. Cela n'est pas donné à tout le monde.
Vous avez écrit « Tout brin d'herbe est une aventure ». Et là encore, je suppose que vous ne voulez pas commenter.
Non, parce que ça explique tout. En effet, tout est une aventure, même un brin d'herbe. Et à plus forte raison, un brin d'herbe, c'est toujours la chose la plus faible, la moins représentative qui amène justement l'émotion du solide et du grand.
Que pense du rocher, la mer, et de l'eau, le soleil? Que pense de l'aile, la plume? Que pense de la branche, l'oiseau? Que pense du fruit, la fleur? Que pense du paysage, l'arbre? Que pense du ciel, la racine? De l'homme, la terre, et de la vie, la cendre? Rien. Et ce rien est tout. Quand le soleil répond en hurlant à tue-tête au silence du ciel, et l'abeille en bruissant au réveil de la terre, tu chercheras en vain à tourner le chemin que les pas ont tracé. Rien n'agira jamais. L'ordre, ni le désordre, et ce qui est, demeure. Il te reste le rêve.
Votre fils s'appelle Nicolas.
Oui, mon fils s'appelle Nicolas et je n'ai eu que des difficultés il y a 14 ans quand il est né. Parce que, aussi bien dans la famille qu'autour de moi, on me reprochait beaucoup de lui donner ce nom. Et des quantités de gens d'esprit faisant allusion au marchand de vin m'ont dit « Pourquoi n'appelles-tu pas ton fils Glouglou ? Ce serait plus normal. » Mais ce qui me désole aujourd'hui, c'est de voir que tous les enfants s'appellent Nicolas. Moi, je m'étais imaginé que Nicolas, y aurait qu'un Nicolas, ce serait le mien. Mais maintenant, il y a le fils de Brigitte Bardot, tout le monde s'appelle Nicolas. Et quand on crie Nicolas sur la plage, tous les enfants arrivent. Et je trouve ça désolant.
Vous lui avez dédié un livre, puisque j'ai entre les mains un joli petit livre qui s'appelle « La morale à Nicolas ». Pourquoi la morale ?
Oui, c'est un livre d'ailleurs qui n'est pas très convenable. Eh bien, j'ai emprunté ce titre à Pierre Louis, dont j'ai trouvé un jour toute une série de cartes postales avec des pensées, des préceptes de lui, et qui étaient à l'usage de Tigre de Régnier, dont il était le parrain et possesseur en tant que bibliophile de ces cartes postales qui sont dans un album. Je me suis amusé à faire... Mon fils avait 3 ans quand j'ai fait ça. C'est pas aujourd'hui que j'ai fait ça. Je me suis amusé à écrire sur d'autres cartes postales quelques préceptes et j'ai adopté le titre de Pierre Louis, « La morale à Nicolas ». Il s'agissait de Nicolas. Alors, ce sont des préceptes que je crois fort sensés, fort vrais. Je pourrais d'ailleurs en rajouter d'autres. Je n'ai pas tout mis dans ce petit livre.
Sirène, à ne consommer que le vendredi seulement. Aucune femme n'est absolument disponible. On la prend toujours à quelqu'un, ne serait-ce qu'à elle-même. Fille qui brûle ne sent pas toujours le fagot. Les filles convenables ne détestent pas les inconvenances. Et il est plus doux de les savourer avec elles. Comment savoir jamais le goût de la vertu, puisqu'on ne peut l'apprécier qu'au moment où elle succombe et devient coupable.
À quel moment vous allez mettre ce livre entre les mains de votre fils ?
Quand il sera en âge de comprendre, et jusqu'à présent, il n'est pas très précoce. Il est en tout cas beaucoup moins que moi.
«
C'était Impromptu de vacances, une émission de Harold Portnoy. Ce soir, entretien avec Georges Huniet. Texte lu par Pierre Mégemont, assistant Jean-Marc Siafarikas, collaboration technique Pierre Planès et Jean-Claude Vargas.
Cette émission a été diffusée la première fois le 12 août 1965 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.